Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Je vous propose que nous fassions trois lectures successives qui vont nous situer dans notre réflexion, mais je voudrais vous rappeler une parole de Jésus. Il en dit beaucoup de paroles, mais celle-ci qui va, faire l'objet de notre réflexion ce matin, et j'ai été encouragé par la prophétie tout à l'heure, où il était question de petits. Voilà. C'est vrai que peut-être nous sommes des petits, mais nous avons véritablement, toute l'infini, la grandeur du ciel, et un Dieu qui est souverain sur toutes choses. Alors c'est une parole de consolation, c'est une parole d'exhortation que j'aimerais vous dire dans le contexte de notre monde d'aujourd'hui. Et Jésus dit ceci, « Vous savez que les chefs et que les rois des nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent. » Et dans l'évangile de Luc, parce qu'il y a Matthieu et Luc, et dans l'évangile de Luc, il est dit, mais ceux que l'on appelle des grands, ceux qu'on appelle, ceux qui règnent en roi, en chef, en dominateur, on dit que ce sont des bienfaiteurs. Ouais, on les nomme des bienfaiteurs de l'humanité. Alors, on va découvrir que dans l'évangile, les choses sont certainement considérées par Dieu sous un autre angle. Et vous tenir ces propos ce matin dans un monde, une société, une civilisation où mammon, où l'argent triomphe, qui est véritablement la motivation qui fait avancer le monde, un monde qui opprime, qui humilie les petits, qui dévalorise les êtres, qui déshumanise, transformant ce que l'on peut appeler les petits en rouage pour la grande machine, qui nie la dignité des sans titres, des sans grades, des sans défense, des sans emploi et des sans fortune. Jésus nous dit, vous savez que les chefs et les rois des nations les tyrannisent et les asservissent, et pourtant ces gens-là, élevés en dignité, on les dit bienfaiteurs. Alors, ceci dit, j'aimerais que nous ouvrions trois petits passages de la Bible. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 26. Et j'ai eu à cœur de donner à notre réflexion cet intitulé « Aux rejetés et aux complexés de l'existence de la vie ». Alors, 1 Corinthiens 1, 26, 31. C'est Paul qui écrit cela, inspiré à ne pas douter par l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ qui est en lui. Il dira, considérez, frères, ça s'adresse à nous, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Trois fois, il nous est dit que Dieu a choisi. Alors les hommes font des choix. Ils font probablement des choix différents, parce que la suite nous dit, c'est par Christ que vous êtes, c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, c'est la suite, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Que d'orgueil dans notre monde. Orgueil qui ne devrait pas exister dans l'Église, on est bien d'accord, Mais quel orgueil, quelle prétention, quelle opulence de dire « je suis, je fais, je dis, je commande. Alors à tous ces gens-là, on leur donne, après leur disparition, leur nom figure sur des plaques de rue, de boulevards et d'avenues. Je prends des risques en disant ça. Deuxième texte. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 8. C'est Paul, ce même auteur, qui raconte que être grand, c'est être petit. Être fort, c'est être faible. Alors il dit ceci, dans une situation où il souffrait. Quelle était la nature de sa souffrance ? On peut toujours épiloguer sur le sujet, mais il ne nous est pas donné précisément, mais enfin, en tous les cas, c'était un homme qui servait Dieu et qui souffrait dans son corps, qui souffrait certainement aussi, eh bien, à l'intérieur de lui-même, et il dira, 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner cette écharde qui est en moi, et Dieu m'a répondu, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors il en est arrivé, notre brave Paul, à dire, après avoir compris le sens de la conduite de Dieu dans sa vie, et le pourquoi, je me glorifierai donc bien plus de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et puis une dernière lecture, puisque je vous en ai annoncé 3. Dernière proposition, c'est dans Jean. Et là, c'est réconfortant, vous allez voir, parce que quand bien même notre vie parfois connaît des turbulences, des humiliations, des complexes, je dis bien, oui, complexes, sous-estimation de soi. Alors, écoutez, le Seigneur ne s'est pas trompé hein, quand il nous a choisis, chacun d'entre nous, parce qu'il nous a dit qu'il ne se repent pas ni de ses appels, ni de sa vocation, ni de la vocation qu'il nous a donnée. Alors, Jean 15, 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit Jésus. » Jean 15, 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. » Vous avez remarqué le mot « choix » comment il revient. Hein? « Mais moi, dit Jésus, je vous ai choisi. Hey. Et je vous ai établi. Afin que vous alliez, et moi j'ajouterai en toute liberté, décomplexé, vous savez c'est le mot qu'on en parle actuellement, hein? Décomplexé, que vous alliez, et que vous portiez du fruit. » Pas seulement des œuvres, pas une multiplication d'activisme ou de choses ou d'autres, mais des fruits. Et que votre fruit demeure, c'est-à-dire qu'il reste comme un témoignage, comme un flambeau, comme en quelque sorte eh bien l'emblème de votre appartenance à Christ, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, eh bien il vous le donne. Voilà, il vous le donne. Le premier texte que nous avons lu dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, il y a d'un côté les sages, peut-être ceux qui ont fait des études, c'est pas mauvais en soi, hein. Ceux qui véritablement eh bien, ont donné une place très importante à la réflexion, à l'intelligence, les sages. Et puis il y a les puissants, sont-ils devenus puissants et de quelle manière sont-ils puissants? D'une manière ou d'une autre, puissants par peut-être la sagesse. Puissants parce qu'ils ont réussi dans les affaires, puissants parce que peut-être en politique, eh bien voilà, ils ont su rentrer dans le système. Et puis les nobles, ah les nobles, il y en a un peu moins depuis la Révolution française, hein, mais il y a d'autres façons de considérer la noblesse. Voilà. On pourrait dire l'élite, les distingués des nations ou des peuples, voilà. Et puis de l'autre, c'est exactement le contraire. Et c'est le choix de Dieu. Il y a les fous, parce qu'il est question de folie. Bon, je me suis pas trop creusé la tête pour donner naturellement eh bien, le sens. Il y a les irraisonnables, vous savez, des gens qui, apparemment comme ça, qui ils foncent, ils réfléchissent qu'après. Hein. Il y a les faibles, naturellement, et de quelle faiblesse pouvons-nous parler? Il y a les fragiles, vous savez, ceux qui sont comme la feuille. À l'automne, ils tremblent. Ils tremblent pour plusieurs raisons, parce que c'est peut-être physique, C'est peut-être parce qu'il manque d'assurance psychologique, hein, ou morale. Et puis, les faibles aussi, spirituellement, oui. Il y a les malades. Il y a les inadaptés. On fait beaucoup de choses, hein, pour les handicapés, les inadaptés, hein. On fait des petits promontoires pour qu'ils accèdent, mais c'est très bien, hein, je ne suis pas contre, hein, je veux pas dire le contraire. Mais il y a bien d'autres qui sont inadaptés, on fait rien pour eux, hein. Et on n'a vraiment pas pensé, on n'a jamais eu une pensée qu'il pouvait y avoir des handicapés et des inadaptés. Donc, il y a les vils. Vous savez, ceux qu'on ne voudrait pas toucher au rebord de leurs vêtements, comme nous dit, je crois, c'est Jude, de peur de se souiller. Et puis, il y a les méprisés, à tort ou à raison. Il y a les rejetés. Il y a les irresponsables, on se dit, mais il a jamais réfléchi, celui-là, hein. Il y a les laissés pour compte. Ouais, parce que ça n'intéresse personne. Parce que peut-être il y a eu un accident ou un incident dans leur vie, alors on les a laissés pour compte. Ça vaut vraiment pas la peine de s'intéresser à eux parce qu'ils ne sont pas intéressants. Il y a les défavorisés. Vous savez, celui qui a raté la marche dans la vie, dans la société, et dont on n'a certainement pas, peut-être pas véritablement fait ce qu'il fallait vraiment. On a peut-être fait des choses, mais c'était pas des choses adaptées, c'était pas des choses qui avaient véritablement... Pour les remonter à niveau, les remettre à flot, on a peut-être oublié le côté moral, le côté familial, je ne sais pas, le côté spirituel naturellement, hein, les défavorisés, les bas tombés. Enfin, quand vous regardez dans l'Évangile, hein, Jésus, il regardait pas toujours en haut, il regardait toujours en bas, hein, souvent en bas. Hein. Il y a les sous-estimés, qu'on n'a pas vu qu'ils avaient des trésors à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y a les humiliés, alors on ne s'est pas gêné, parce que ça va bien la méchanceté et l'humiliation, hein. Et les injustices. Il y a les timides. Il y a des gens qui ont de grandes capacités, mais qui ne peuvent pas les exprimer parce que il suffit qu'ils ne peuvent pas dire qu'est-ce que je vais en public, surtout, et comment je vais faire. Alors c'est vrai en entreprise, c'est vrai dans toutes les strates de la société. Il y a les timorés, alors ça revient, c'est la timidité. Hein. Il y a les cassés et les brisés moraux. Ça vous rappelle rien? La primeur du message de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et puis ceci et cela, etc. Ceux qui ont le cœur brisé. Et puis il y a les opprimés, les sans-valeur, enfin que l'on juge sans-valeur, et les sans-force. Et puis il y a les sans-défense. Alors des sans, il y en a beaucoup, hein. Il y en a des centaines de... On pourrait faire un jeu de mots avec tout ça. C'est pas la société. Quand je regarde des informations, je m'intéresse aux médias parce que c'est quand même important. Un chrétien est un citoyen, il doit savoir ce qui se passe. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a des moins. Alors on nous montre le plus, quelquefois pour nous jeter des étoiles dans les yeux. Voilà, il y a des salons ici et cela, on dévoile l'opulence, hein, la prouesse humaine que je reconnais. Les jeunes sont capables de faire des choses extraordinaires, formidables. Et on nous montre les palais d'or et d'argent de notre, comment on dit ça, les ors du palais, voilà, c'est ça. Alors on nous montre ceci et cela, et avec des films ou téléfilms ou Santa Barbara, enfin, je vous dirais que je m'égare. Voilà, la Californie, etc., etc. Ne me jugez pas trop vite. Alors ça, c'est la compensation, vous comprenez, hein. Puis de temps en temps, on plonge dans les ordures de Calcutta, enfin dans les, vous savez, les dépotoirs de Calcutta, pour nous dire attention, mais le monde, il est quand même comme ça. Eh oui, il est comme ça. Alors c'est vrai que on est vraiment désarmé. Comment peut-on sauver le monde? Est-ce qu'on sera suffisant pour tout cela et tout ça, hein? Alors c'est le monde dans lequel on est. Et pourtant. Jésus nous dit, mais considérez, frères, qu'il n'y a parmi vous. Et pourtant, j'ai entendu dire qu'il y avait des chrétiens authentiques, des hommes de Dieu, dans les sphères, dans les hautes sphères de la direction même de notre pays. Peut-être pas dans la magistrature suprême, mais il y a des gens qui sont là. Parce que vous savez, Daniel, il a quand même été à côté de Nebuchadnezzar. Esther, elle était quand même à côté d'Assuérus. Ils n'étaient pas forcément très amis, mais Moïse et Pharaon, il s'est trouvé aussi là. Et puis il y en a d'autres comme ça, et je suis sûr qu'aujourd'hui, dans la Bible, il nous est dit aussi, dans le livre des Actes, qu'il y avait des femmes de distinction qui avaient cru en Jésus-Christ. Eh oui, ben, le monde il est comme ça. Hein. Alors nous allons passer en revue, si vous voulez, brièvement, des personnages bibliques qui nous montrent à l'évidence que cette parole que nous avons lue et relue, Dieu a choisi. Il a choisi. Et dans ses choix, Dieu, je ne voudrais pas vous choquer, mais il a choisi des fous. Hein. Il a choisi des faibles. Et il a choisi des villes. C'est-à-dire les trois propositions qui nous sont faites là dans ce que... Et ça peut peut-être nous choquer, mais c'est ainsi que Dieu a choisi. Et vous savez ce qu'il a, pourquoi il les a choisis? Pour en faire des héros. Ouais, pour en faire des héros, parce que il a choisi tout cela pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et ceux qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Alors c'est vrai que quand on considère le monde politique, le monde social, le monde indifférent ou par-delà les frontières du fait religieux, on dirait ça va encore. Mais quand on voit que le mal, il est au cœur du christianisme, l'opulence, toutes ces choses qui écrasent, toutes ces choses qui impressionnent et qui troublent l'âme et la conscience humaine, alors là, c'est autre chose. Il y a actuellement une doctrine qui court depuis 25-30 ans, c'est pas aujourd'hui qu'on en parle, c'est l'évangile de la prospérité. Et là, nous avons vraiment beaucoup de questions à se poser, à nous interroger. Surtout quand on voit l'exemple des exemples, le modèle des modèles, Jésus, qui n'avait pas un lieu où reposer sa tête. Alors là, ça nous laisse pantois. Mais la phraseologie, le vocabulaire est bien celui de l'évangile de ces gens-là. Mais on en est loin. Alors des fous. Oui. Choses qui ne sont pas ou qui ne sont rien pour réduire à néant celles qui sont. Mais ce n'est qu'une apparence. Mais ils ne sont rien. Personnage atypique. C'est ce que c'est que d'être atypique. Ouais. Hors norme. Un petit peu à côté des clous. On peut dire beaucoup de choses. Le premier, vous le connaissez, c'est certainement le personnage de plus... qui nous questionne le plus. Ah, c'est Jacob. On a souvent parlé de Jacob. Jacob l'intrigant. Parce que, quand même, moi, j'aurais été le Seigneur. Un gars qui ment, qui trompe, qui vole, qui fait toutes sortes de pirouettes, et qui arrive à composer encore sa foi entre les deux, entre Dieu et puis toutes ces perturbations ou ces turpitudes, on se dit, ben moi, j'aurais pas été le chercher. Et vous savez, quand Dieu va chercher des gens comme ça, il ne regarde pas le départ, il regarde au bout. Il regarde la fin de l'homme. Il regarde ce qu'il veut faire de cet homme. Et Jacob, au départ, il nous fait dresser les cheveux sur la tête, mais quand on le voit adorer, parce que c'est les dernières paroles qui nous sont données de lui, il adorait sur l'extrémité de son bâton, il adorait Dieu. Dieu en avait fait un adorateur. Merci Seigneur, de ce que tu vas chercher des adorateurs parmi ces gens-là. Et nous voulons vraiment être des adorateurs. Et tu nous as trouvés où? Tu nous as trouvés comment? Tu es venu nous chercher dans quel état et dans quelles circonstances, Seigneur? Moi, je m'en souviens encore pour moi, et chacun d'entre nous vous en souvenez. Eh bien, merci, Seigneur. Merci pour le délinquant qui était Jacob. Est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu en as fait? Ensuite, un autre qu'on n'aurait pas pensé. Parce que lui, il a été élevé, il a grandi dans les palais dorés d'Égypte, Moïse. Ah, il avait pas bon caractère, Moïse, hein. C'est un colérique. C'était tout ce qu'on voulait. Et en plus, on apprend 80 ans plus tard, quand Dieu lui dit, tu vas retourner vers Pharaon parce que j'ai quelque chose à lui dire et c'est toi qui vas le dire. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, mais, Seigneur, je suis bègle. Comment veux-tu que je m'adresse à un roi, le roi le plus puissant de la terre d'alors? Et un prédicateur bègle, ça vous donne du temps d'écouter, hein. Imaginez-vous que on va passer 3 heures, hein, aujourd'hui, hein. Je sais pas le faire. Mais Dieu lui dit, tu sais pas parler, je mettrai à côté de toi ton frère Aaron, et il parlera à ta place. » Dieu aurait pu le guérir tout de suite, hein. Mais c'est comme ça. Eh oui. Et Moïse, en fin de compte, dira, tu envoies, parce qu'il est, je l'ai dit, pas bon caractère, tu envoies celui que tu voudras, mais pas moi, je n'y vais pas. Eh bien, si vous avez des problèmes d'élocution d'une manière ou d'une autre, Seigneur, je voudrais bien prier, je voudrais bien louer le dimanche matin, mais je ne sais pas parler. Qui c'est qui a fait la langue? Mais c'est le Seigneur. Ouvre ta bouche, et je la remplirai de louanges. Et puis après, il y a Joseph. Alors, il n'a pas de chance, lui. C'est un bon garçon, Joseph. Hein. Ah, franchement. Hein. Mais il était méprisé par ses frères. Il était adulé par son père et méprisé par ses frères. Ce qui a fait une tempête de jalousie. Et on lui a fait payer. On l'a vendu. Quand on a pu un jour le coincer quelque part, on lui a dit, mon petit gars, tu disparais de la circulation. Tu n'es plus notre frère. Et vous savez que le dernier est devenu le premier. Il a été humilié pendant 17 ans de sa vie dans les geôles d'Égypte. Dieu, il nous a dit qu'il était toujours avec lui. Et là, Dieu nous conduit et nous dirige. Vous avez des complexes, vous avez des difficultés. Ne vous renfermez pas sur une amertume ou une aigreur parce qu'on vous a fait du mal. Parce que vous savez que, de dernier que vous êtes, vous pouvez devenir le premier. Et c'était pas n'importe quoi, premier ministre d'Égypte. Imaginez-vous du peu. Vous avez déjà rêvé d'être président de la République ? Pas moi. Notre brave Gédéon. Ah oui. Qui dira, Seigneur ? T'es sûr que c'est moi que tu envoies ? T'es sûr ? Alors il va lui falloir un signe venant du ciel, le feu là, hein, qui, voilà, il va préparer un sacrifice et puis le feu va tomber. Il est toujours pas convaincu, le brave Gédéon. Et il est le plus insignifiant de tous, le plus insignifiant en Israël, de sa grande famille, parmi ses frères. Il dira, mais je suis le plus petit. Ça vous est déjà arrivé de dire que vous étiez le plus petit, même si vous mesurez 2m80? Goliath. Ouais. Eh ben, écoutez. Ouais, c'est ça. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va lui dire? Allez, moi je t'envoie, Gédéon. Et je veux te dire quelque chose qui va t'encourager. Tu es un vaillant héros. Vous l'avez pas entendu en prophétie? Tu es un vaillant héros? Non, personne, vous avez entendu une prophétie comme ça? Ah, et puis il y a une belle figure, c'est Ruth. Ruth, l'étrangère, qui va émigrer. Elle en parle des émigrés aujourd'hui, hein. Il y en a qui sont en train de mourir, là, par centaines, dans nos mers et nos océans, qui sont en train de mourir de faim. Ouais. Alors, Ruth, c'est ça. C'est l'étrangère naturalisée. On a du mal en ce moment-là, il me semble, non ? Ouais, naturalisée. Mais elle va être naturalisée parce qu'il va se passer quelque chose. Elle sera toujours moabite. Elle sera toujours de ce peuple idolâtre et exécré des Juifs. Mais il y a quelque chose qui s'est passé à l'extérieur, rien. Mais à l'intérieur, quand Naomi, sa belle-mère, lui dira, moi je retourne dans mon pays, c'est mon Dieu. Et elle proclamera, elle dira, notre belle Ruth, on peut dire le mot, hein, parce qu'elle a une belle âme, elle dira, bien écoute, moi je ne peux pas t'abandonner. Parce qu'elle avait entendu parler du témoignage de Dieu par sa belle-mère. Et elle dira, ton pays sera mon pays, ton peuple sera mon peuple. Ta foi sera ma foi et ton Dieu sera mon Dieu. Elle revient de loin. Hein? Oui. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle était rien. Et elle est devenue un personnage clé dans l'histoire de la constitution du plan de salut. Parce qu'elle a été la mère d'Obed, si je me souviens bien. Qui lui-même était le père, attention à la généalogie, hein, c'est la père d'Isaïe. Isaïe, le père de David, le grand roi. Et qui était l'ancêtre de Jésus-Christ. C'est beau? C'est moi qui t'ai choisi. Et chacun d'entre nous, Dieu nous a choisi pour quelque chose. Vous en doutez? Il y a un plan. Et quand on arrivera de l'autre côté les uns et les autres, il y aura un livre d'écrit sur notre vie. Moi, je le crois qu'il y aura quelque chose. Comme tous ces hommes qui ont traversé l'histoire de la Bible et qui ont laissé une trace. C'est pas eux qui l'ont écrit souvent, mais c'est parce que d'autres l'ont écrit. Et Dieu a rendu témoignage à tous ces gens-là. Ah, notre brave David. Oui, le dernier des derniers, celui auquel on n'avait pas pensé au moment où il y a eu l'onction de Samuel. Je l'ai dit dernièrement, voilà, le grand Éliab, un beau garçon, fort, vaillant, un soldat, le deuxième, aussi beau que le premier, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Puis il y en avait un petit huitième qui est en train de garder les troupeaux, enfin garder les brebis du troupeau de son père. Et là, finalement, eh bien, on n'avait pas pensé. Et Samuel dit à Isaïe, mais t'aurais pas encore un fils? Ça fait des grandes familles, hein. 8 garçons, c'est pas mal, hein. Alors moi, je vous encourage, hein. C'est bien, hein. Si vous avez 8 garçons et 8 filles, ça fait une belle famille. Ben si, je vous encourage. Là, vous n'êtes plus des petites familles, vous êtes des grandes familles, voire nombreuses. Mais toujours est-il que, ah, il dit, le père dit, ah oui, il y en a encore un petit, mais ouf, il compte pour rien. C'est David, hein, un petit garçon avec une belle figure, il est blond, il est magnifique, hein. Il lui dit, va le chercher. Et là, c'est l'onction qui tombe sur lui. L'onction de Dieu. C'est lui qui sera le prochain roi d'Israël. Puis David, il va faire du bien parce qu'on lui a fait du bien. Et j'en ai parlé dernièrement. Il va faire venir à sa maison, à son palais, Méphibosheth. Vous savez, le boiteux. Il est tombé un jour alors qu'il était petit, il avait 4 ans, pendant une période de guerre. Et puis c'est un jeune prince, hein. Et ses pieds se sont cassés, tout simplement. Alors il a été mis de côté parce que toute la dynastie de sa famille, c'est-à-dire Saül, Jonathan, ils sont tous morts. Et à un moment donné, il se souvient, il dit, mais mon ami Jonathan avait un enfant. Voilà, il s'appelle Méphibosheth. Et Méphibosheth, c'est le banni et c'est l'infirme. Et il le fera venir dans son palais. Et vous savez ce que fera David? Lui qui pensait finir sa vie dans la médiocrité, Méphibosheth. Il dira maintenant, Méphibosheth, je veux te faire du bien parce que Dieu m'a mis à cœur de te faire du bien. Et tu as été véritablement là, derrière, tu as été transparent, t'as pas vu. Tu as disparu en raison des circonstances et des malheurs de ta vie. Mais aujourd'hui, je voudrais te dire, Méphibosheth, c'est tous les jours que tu mangeras à la table du roi. Eh bien, nous mangeons à la table du roi, mes frères et sœurs. Si je vous dis Jephté, ah oui, vous savez, celui qui avait un papa qui était pas sérieux, ça vous dit rien? Qui avait été voir une prostituée. Et de cette union, eh bien, était né un petit garçon. Et après, monsieur, je ne sais plus comment il s'appelait, le papa de... Mais toujours est-il que après il a régularisé la situation, non pas avec la prostituée, mais il a pris une femme, et puis il a eu d'autres enfants. Ça fait du remue-ménage, hein, tout ça, hein. Et les frères se sont aperçus, c'est comme Joseph, ils se sont aperçus que lui, c'était le petit vilain petit canard dans la famille. Et un jour, quand il est devenu grand, ils lui ont dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Allez hop, Raoul, tu t'en vas. Et ils l'ont viré, hein. Excusez-moi. Ils l'ont mis dehors. Voilà. Il était chassé, tout simplement. Eh bien, c'est avec Jephté, le méprisé, l'humilié, celui qu'on avait sorti de la maison paternelle, parce que c'était pas de sa faute, c'était les causes de sa naissance. Et ce qui s'est passé, c'est que un jour, il y a eu guerre avec je ne sais plus quelle tribu, et là, c'est ses frères qui lui ont dit, on a vraiment besoin de toi maintenant, t'es indispensable, viens. Mais il était le sauveur de ses frères. Oui, le petit le méprisé, il s'est retrouvé en premier, chef de la nation d'Israël. La veuve de Tarepta, par exemple, c'était la désespérée de la faim, on pourrait dire ça. Quelqu'un qui avait faim. Quelqu'un qui allait mourir avec son fils. Eh bien, parce qu'Élie était passé par là et que Dieu lui avait dit, tu vas aller dans cette maison, il n'y a pas grand chose à manger, mais tu vas voir, cette femme, elle est excellente. Elle a encore du cœur. Elle a du cœur par rapport à toutes les maisons auxquelles tu as frappé aux portes et que personne t'a rien donné. Eh bien là, maintenant, tu vas pouvoir rentrer. Et Élie lui dit, fais-moi un gâteau avec de la farine qui te reste. Et donne-moi encore un peu d'eau, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de farine, il n'y a plus grand-chose. Et elle lui a donné. Eh bien, cette femme qui n'avait rien a eu tout, puisqu'il nous a dit que dans la cruche, l'huile n'a pas manqué, et que dans le pot, la farine n'a pas manqué. On est petit, mais on a beaucoup de choses. On a tout par la foi. Job, vous n'êtes pas sorti, hein, parce que je vais faire toute la Bible ce matin, vous allez voir. Ça va, vous avez un peu de temps? Oh bah oui, il est pas 3h30 encore. Enfin 15h30, hein, ça va. Alors, Job, l'homme de douleur et de souffrance. Et pourtant, il avait de quoi se plaindre. Il avait mal partout. Il avait mal à la tête, il avait mal aux pieds, il avait mal partout, à l'intérieur, à l'extérieur. Il avait des amis qui étaient excellents pour venir le consoler, qui lui disaient, mais c'est à cause de ceci, à cause de ça. Sa femme, qui était aussi une bonne épouse, lui a dit, ben écoute, hein, t'as plus qu'à mourir comme ça, tu souffras plus, tu souffriras plus. Ben, c'est ça ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'il nous est dit de ce pauvre Job, dans sa douleur extrême? Il ne pécha pas par ses lèvres. Bravo, Job. Merci. Jérémie. Vous savez quel âge il avait, Jérémie, quand Dieu l'a appelé? C'est un peu l'équivalent de Samuel. C'était un tout petit enfant. Ou un petit enfant, Jérémie. Dieu lui dit, tu vas aller parler à mon peuple. Tu vas aller parler à ma nation et tu vas leur dire des choses qu'ils ont besoin d'entendre. Jérémie dit, mais... Moi, je sais pas. C'est pareil, il a dit exactement comme Moïse. Mais j'ai pas la parole. Et je vais devoir aller devant les grands de ce monde et leur dire que... Dieu lui répond, eh ben, tu seras comme un agneau au milieu des loups. Mais personne ne touchera à toi parce que celui qui te touchera touche à la prunelle des yeux de Dieu. Ça s'est bien passé pour lui, hein, quand même. Il était petit. Il y a Siméon, je passe très vite, hein. Siméon. Eh oui, il était bien trop vieux pour continuer à attendre la consolation d'Israël en attendant le Messie. Bien trop vieux, et il avait 80 ans. Remarquez, c'est jeune aujourd'hui, 80 ans. Je vous encourage. Oui, parce que bon, on va vivre jusqu'à 120, 130, 140. Faut pas dépasser le... Non, c'est 130 hein, sur autoroute. Hein. Alors voilà. Mais toujours est-il qu'il était bien trop vieux. Mais il avait une espérance dans son cœur. On aurait pu dire les vieux, on les met dehors, parce que c'est pas avec les vieux que la société nouvelle, le royaume de Dieu va se faire, c'est avec la jeunesse. Tiens, je t'en fous. Pas du tout. C'est avec Siméon. Il attendait la consolation d'Israël et il nous est dit que Dieu l'a poussé un beau matin à rentrer dans le temple et il a porté, il a pu voir dans ses bras le petit enfant Jésus, le Messie d'Israël et le bénir. La Samaritaine, une si mauvaise vie. Quelle mauvaise vie! Eh bien pourtant, c'est cette femme-là qui a été choisie. Elle était bouleversée. Le Seigneur a fait en sorte, en lui faisant aucune réflexion, aucun jugement, aucune critique sur sa vie. Il lui a dit seulement la vérité et c'était le bouleversement complet et total de son âme. Ouais, le Seigneur a véritablement touché là où il fallait toucher. Et vous savez les dernières paroles de la Samaritaine, quand après avoir rencontré Jésus, toute euphorique, elle est retournée dans son village. Et le message et le témoignage qu'elle a rendu à tout le monde, ne serait-ce pas le Christ sauveur du monde? Bravo pour une métissée, parce que c'était un mélange, hein, pour une prostituée, pour une courtisane qui va devenir la première femme témoin pour proclamer que Christ est le sauveur, le Messie est le sauveur du monde. La dernière. Ah, Thomas. Les grands combats du doute. Et nous nous sentons quelquefois complètement, excusez-moi l'expression, mais ratatinés parce que nous avons des doutes. Nous avons des dualités à l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons toutes sortes de choses. Et combien nous sommes malheureux. Oui, ne sois pas incrédule, mais crois. Ça nous arrive aussi de nous sentir tellement insignifiants devant Dieu. En disant, j'aimerais bien avoir une foi affermie, j'aimerais bien être plus stable, j'aimerais bien être comme mon frère ou ma sœur. Ah, pour eux, ils n'ont pas de problème. C'est que vous ne les connaissez pas. Et vous savez, lui aussi, il fera comme la Samaritaine. De partie de rien de son gouffre de doute, il va donner cette parole extraordinaire qu'aucun des autres disciples n'a jamais dit. Mon Seigneur. Et mon Dieu. Ça part d'en bas et ça va. Mon Seigneur et mon Dieu. Ah, notre petit Timothée. On l'aime bien parce que c'est un peu le fils de Paul. Là, il se caractérise par quelque chose qui nous ressemble. Je ne veux pas trop me tromper. C'est le plus malheureux des timides. Vous connaissez Timothée? Oui. C'est un peu comme Moïse, et etc. Le plus malheureux des timides, et moi je voudrais quand même lire ce qui est à lire, en ce qui concerne Timothée, parce que Paul va l'exhorter et va lui dire, et ce qui montre bien qu'il était timide, timide, maladif. Vous savez ce que c'est que la timidité? ça nous fait passer par toutes les couleurs. Ça nous fait trembler. Ça nous fait transpirer. On passe du rouge au blanc, au blême. On est dans un état où on ne sait plus où on en est rendu. Hein. C'est terrible. Les jours d'examen, vous vous souvenez ? Voilà. Et quand on doit affronter des personnalités, des gens qu'on connaît pas, des inconnus par exemple, dont on nous a dit que ils étaient bien gentils, mais attention, hein. Alors la timidité, c'est terrible. Et Timothée, vraiment, le grand timide, le type même de grand timide de l'Évangile est dans, donc, 2 Timothée, chapitre 1er, et il nous est dit, Paul dit, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Oui. Il y a un lumignon, il fume, il est prêt de s'arrêter, mais il y a une flamme pour le réallumer. C'est le baptême du Saint-Esprit. Notre force est dans le renouvellement du baptême du Saint-Esprit. Parce que vous êtes baptisé, parce que vous parlez en langue, eh bien voilà la flamme dont nous avons besoin. Et il ajoute, parce que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alors n'aie donc pas honte du témoignage à parler, à rendre de notre Seigneur, ni à moi son prisonnier. Mes frères et sœurs, je voudrais vous rappeler, vous qui êtes timides, vous qui êtes malheureux dans cette situation de misère, vous voudriez être autrement et vous êtes comme ça. Moi, j'ai entendu quelquefois des gens qui avaient des situations, qui étaient dans la vie implantés, mais qui confessaient quelquefois en disant « Mais moi, quand je dois aller dans une administration et devant des guichets, des choses comme ça, je perds tous mes moyens. » Je suis vraiment malheureux, j'ai besoin de ça. Vous savez qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont malheureux de cette, moralement, psychologiquement, de toutes ces choses. N'aie pas peur de l'homme, nous dit Dieu. L'homme n'est qu'un homme, tout simplement. Alors, je vais bientôt finir. Je vais finir par une histoire quand même. Hein. Remarquez, c'est toute une histoire que je vous ai racontée ce matin. L'histoire de la Bible. C'est l'histoire des hommes, c'est notre histoire à nous. Il est dit ceci, vous allez reconnaître la situation. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, c'est pour ça que j'ai fait un petit peu l'énumération de tous ces personnages de la Bible et de toute leur fragilité, de leur petitesse. Alors que nous avons, nous, maintenant, au XXIe siècle, une si grande nuée de témoins, nous l'avons dans ce livre, mais nous l'avons autour de nous. Il y a des hommes et des femmes qui sont nos frères et nos sœurs et qui partagent les mêmes difficultés et les mêmes problèmes. Donc c'est la nuée de témoins. Ne vous laissez pas aller au découragement, parce qu'il y en a un qui gagne à ce moment-là. Je rendrai témoignage lorsque je me sentirai plus fort. Je rendrai témoignage où je parlerai de Jésus lorsque j'aurai ceci et cela, lorsqu'il y aura cette circonstance, etc. Eh bien, moi, je voudrais vous dire que si vous raisonnez comme ça, vous ne rendrez jamais témoignage, mes frères et sœurs. C'est dans votre faiblesse que vous allez rendre témoignage. C'est avec vos craintes et avec votre timidité que vous allez rendre témoignage, et vous allez voir comment Dieu est capable de changer les choses. Il va les retourner, et là vous allez faire l'expérience. Ne vous complaisez pas en vous-même dans ce que vous ressentez, mais marchez par la foi. Et un peu plus loin, parce que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, je le rappelle, mais Dieu nous a choisi, il a choisi les choses qui, on l'a parlé, mais c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et le fruit que vous allez porter, c'est la force, la hardiesse et l'assurance du Saint-Esprit, à tel point que Paul l'écrira à la fin de son épître, de cette lettre aux Éphésiens, il dira « Priez pour moi aussi, afin que lorsque j'annonce l'Évangile, je puisse le faire hardiment et courageusement et librement comme je dois en parler. » Eh bien voilà. Voilà mes frères et sœurs. C'est ça la question. C'est-à-dire, et Dieu nous le dit ce matin, tenez bon. Tenez bon par-delà vos complexes. On a tous toujours quelque chose. On n'est pas dans un monde parfait. On n'est pas dans un monde idéal. On a tous quelque chose, d'une manière ou d'une autre. Ça se voit ou ça ne se voit pas. C'est mieux quand ça ne se voit pas. Mais quand ça ne se voit pas, ça nous fait encore beaucoup plus mal. Quelquefois. Eh oui, parce qu'on le garde, on le renferme. C'est une prison et ça nous intoxique. Hein. Ça nous empoisonne, ça. Alors, tenez bon devant vos complexes. Les blessures, la solitude. l'humiliation, le sentiment de rejet ou d'être incompris, d'être dévalorisé, et par-delà la trahison et les tentations diverses, nos infirmités, nos insuffisances, car Dieu est fidèle. Et il nous assure, et il nous rassure. Et ce matin, nous sommes à la phase d'être rassurés par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu qui est au milieu de nous pour chacun d'entre nous. On l'a entendu dans la prophétie tout à l'heure. Car Dieu est fidèle et nous assure qu'il ne se trompe jamais, jamais, au grand jamais dans ses choix. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, il y a cette belle parole. C'est un éloge que Dieu fait à une église. Apocalypse, chapitre 3, verset 8, il est dit ceci. Je connais tes œuvres. Il y en a un qui nous connaît, c'est bien le Seigneur. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, malgré tout, envers et contre tout, par-delà tout ce que je peux ressentir et les impressions qui sont les miennes, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et la porte, elle est multiple, elle est diverse. Porte de ma bouche, porte de mon cœur, porte de tout ce que nous pouvons imaginer. Alors, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Mes frères et mes sœurs, Dieu vous a choisi, il a ouvert une porte. Ne croyez pas qu'elle soit fermée. Parce que tant que nous penserons qu'elles sont fermées, alors à ce moment-là, nous ne pourrons pas nous approcher du Seigneur. Seigneur, ouvre la porte. Le Seigneur va nous répondre, mais elle est déjà ouverte. Que personne ne peut fermer. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as et sois fidèle. Se réconcilier avec soi-même. Se réconcilier avec tous les brouillis brouillats de notre intérieur, de notre âme, de notre cœur, de nos sentiments, de notre ressenti. On sait ce que c'est, on est des hommes. Mais le Seigneur nous dit, mais je suis là. Et je vais t'aider. Je vais te transformer. Et vous allez voir qu'il va nous transformer dans un vase d'honneur. J'y viens. Oui. Transformer la faiblesse en avantage. Enlever les chardes qui nous fait mal de temps en temps, qui se réveillent. À quoi je sers pour Dieu? Oui, je suis au milieu de mes frères et sœurs, mais à quoi je sers? Il me semble que ma vie, elle est insipide, elle est linéaire, elle n'a rien de particulier. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu de montagne russe. J'aimerais bien qu'il y ait quelque chose. Mais écoutez, je vous avais dit que je vous raconterai une histoire. Alors, vous l'avez déjà entendu pour les plus anciens. Bon, ça fait des années que je l'ai raconté. Mais vous allez la retrouver, hein. Vous allez voir la signification et vous la mettez dans le contexte que nous avons parlé ce matin. C'est l'histoire d'une cruche. C'est pas péjoratif, hein. C'est un porteur d'eau. Un porteur d'eau transportait naturellement ce qui est sa fonction de cruche. Suspendu à ses épaules sur un bâton. Alors c'est un cliché qui ne se voit pas, parce que maintenant on a l'eau courante, hein. Mais dans le passé, il y avait des porteurs d'eau, c'était leur état, leur métier, tout simplement. Alors on peut s'imaginer, hein. Et dans certains pays, on en voit encore, hein, dans les reportages. Voilà, ils ont une traverse et puis ils portent l'eau comme ça. L'une de ces jarres avait une fissure, ouais. Pendant que l'autre jarre conservait parfaitement toute son eau, la première perdait la moitié de sa gargaison en route. À chaque fois, le porteur d'eau ne livrait qu'une cruche, une cruche et demie. Ah oui, parce qu'il y en avait la moitié de l'autre qui se répandait sur le sol. La jarre étanche était très fière. Je suis bien, moi. Pas de fuite. Et elle remplissait sa fonction sans une seule goutte d'eau perdue. Mais la cruche abîmait la pauvre. Vous savez, cette malheureuse cruche, là. Eh bien, tout simplement, elle n'accomplissait que forcément la moitié de ce qu'on attendait d'elle, puisque elle avait une contenance comme l'autre, mais comme il y avait une déperdition, naturellement. Alors, pour donner l'explication de ce qui lui était arrivé, jadis, celle-ci avait été accidentée, mais n'avait jamais été bien réparée. On n'avait jamais pu bricoler ce qu'il fallait pour que vraiment elle garde la totalité, et elle en avait gardé des fissures à vie. Elle avait vieilli prématurément, peut-être par rapport à l'autre, et puis ben, ça sointait, ça coulait, et puis voilà, tout simplement. Ce qui faisait que ben elle n'était pas tout à fait totalement au point et totalement efficace. Et un jour, hein, alors c'est une métaphore, hein, cette cruche-là, eh bien, s'est adressée au porteur d'eau et lui a dit, mais tu sais, combien je me sens coupable de perdre toujours de l'eau. Elle était consciente de sa misère. Et le porteur d'eau lui dit, mais de quoi as-tu honte? Il répond, mais je ne réussis qu'à porter la moitié de ma contenance. Et par ma faute, tu fais, toi, le porteur d'eau, beaucoup d'efforts. Parce que finalement, eh bien, c'est moi qui viens t'ennuyer avec tout ça. Tu fais beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, mais c'est à cause de moi, naturellement. Et le porteur d'eau lui répondit tout simplement, ne pense plus à ça. Ça, c'est la bienveillance et la miséricorde qui apparaît. N'aie pas peur. Mais il ajoute ceci, le propriétaire de cette cruche, il ajoute, « Mais je te demande de regarder désormais toutes les fleurs magnifiques qui poussent au bord de la route et ça te consolera. » De fait, sur la route, la jarre, qui était fissurée, vit de très belles fleurs et cela lui donna un peu de courage. Cela donna un peu de courage à notre pauvre cruche endommagée. Toutefois, elle n'était pas guérie. Elle se sentait toujours et encore coupable et inutile. Mais à quoi je sers? Je fais que la moitié des choses. Quand j'arrive, eh bien, l'autre, voilà, elle fait tout son travail et moi, je fais que la moitié, naturellement. Malheureuse. Alors, le porteur d'eau lui dit, je vais t'expliquer quelque chose. Est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait de belles fleurs de ton côté, du chemin, et aucune de l'autre? Là, il y avait la cruche qui était fissurée. Et il y avait les fleurs, et de l'autre côté, il n'y avait rien du tout. C'était tout simplement, eh bien, voilà, la route. Et il dit aussi ceci, cet homme, « Tu sais, j'ai toujours su et vu que tu perdais de l'eau, et un jour, j'ai eu l'idée de semer des fleurs de ton côté, et toi, tu les arroserais à ton passage. Sans toi, je n'aurais jamais pu obtenir de si belles fleurs et embellir le chemin, et égayer mon travail. » Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons tous des éclats. Nous avons tous des blessures. Nous sommes porteurs de défauts. Nous sommes plus ou moins des jarres abîmées. C'est comme ça, c'est la nature, tout simplement. Certains d'entre nous sont trop petits et trop grands. Les grands devraient être plus petits, les petits voudraient devenir grands. Il y a également ceux qui sont trop fatigués. Je peux plus rien faire, je suis inutile. Il y a les diminués pour une raison ou pour une autre. Il y a les trop maigres et les trop gros. Les gros voudraient être maigres et les maigres voudraient être gros. Mais ce sont des défauts ou des disgrâces. Des sortes de fissures. Des blessures qui n'ont jamais été tout à fait traitées. Des fissures en nous qui rendent nos vies, et là je voudrais dire, qui rendent nos vies intéressantes. Qui rendent nos vies intéressantes, exaltantes, et je dirais davantage, même productives pour l'œuvre de Dieu. Vous la connaissiez cette histoire, pour certains. Mais bon, il y a des gens qui ne la connaissaient pas, je voulais quand même leur donner. Hein, c'est bien, et de la rappeler, c'est bien aussi. Écoutez ce que nous dit Paul, et je termine là-dessus. Nous portons ce trésor. Vous savez que vous êtes plus riche que vous ne le pensez. Ouais. Allez voir votre banquier, vous lui dites, je suis fabuleusement riche. Il va s'intéresser à vous tout de suite. Puis après, vous lui délivrez le message de l'évangile. Nous portons ce trésor. Nous sommes immensément riches, frères et sœurs. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Vous avez vu un peu? Tout le paradoxe des choix de Dieu qui étourdit le monde, un monde qui pense, un monde qui se croit sage et un monde de présomption. C'est pourquoi nous avons lu, considérez frères qu'il n'y a pas parmi vous ceci, cela, etc., etc. Mais que le choix que Dieu a fait, c'est parce que justement c'est le choix de la sagesse du ciel. Et Dieu avec cela, eh bien il va faire de grandes choses. Et quand on regarde un Moïse, quand on regarde un Jacob, quand on regarde Ruth, quand on regarde David, quand on regarde les uns et les autres dans la Bible, eh bien, c'était tous des jarres qui ont été brisés d'une manière ou d'une autre, et Dieu les a élevés jusque dans sa gloire. Eh bien, c'est ce qu'il veut faire avec l'Église. Alors, que celui qui veut s'élever sera abaissé, et que celui qui s'abaisse sera élevé. Que Dieu nous donne sa bénédiction et sa grâce. Et reprenez courage, mes frères et sœurs. Ne vous laissez pas l'âme découragée, emportée par toutes ces choses négatives de la vie, qui sont tout à fait inhérentes à notre existence et à notre monde de pécheurs. Mais néanmoins, et Dieu en fait un trésor et nous portons ça dans des vases de terre. Mais ces vases de terre vont devenir un vase, des vases d'honneur pour la gloire et pour l'éternité. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté, ta fidélité. C'est vrai Seigneur, si que chacun d'entre nous, nous renvoyons à nous-mêmes, nous pouvons dire « mais il y a ceci, il y a cela, il manque ceci, il manque cela. Seigneur, si j'étais ceci, si j'étais cela, je pourrais faire, je pourrais dire, je pourrais entreprendre. » Mais Seigneur, tu veux nous répondre comme l'apôtre Paul, « va avec la force que tu as, parce que ma grâce te suffit. » Je te prie Seigneur, ce matin particulièrement, nous te prions ensemble, pour mes frères et mes sœurs qui sont peut-être dans une situation de pleurs, de chagrin, de tristesse, de fatigue, qui se dévalorisent eux-mêmes, ou qui ont été dévalorisés, Seigneur, par le monde qui les environne, par leur famille, peut-être par le contexte du travail, on les a tenus pour rien, les dégradés, Seigneur. Eh bien, je veux te demander, pour ceux qui se sentent seuls, en effet, Seigneur, dans le nom de Jésus, je te demande, et nous voulons vraiment faire un sujet de prière, parce que c'est une souffrance qui est devant toi. Oui, Seigneur, visite mes frères et mes sœurs. Je te demande, Père éternel, de les consoler. Je te demande de les encourager. Je te demande, Seigneur, de leur faire tout le bien qu'il y a dans le ciel, et qu'ils puissent véritablement, Seigneur, sortir parfois de leur prison, de leur geôle, et ainsi connaître l'allégresse et la joie, Seigneur, que toi tu veux répandre par ton Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien qu'en effet, Seigneur, tu nous dis que le fruit de l'Esprit, en tous les cas les trois premiers, c'est l'amour, c'est la joie et la paix. Alors donne la paix dans les cœurs, remplis nos vies de joie, et donne-nous de t'aimer, Seigneur, plus que toute autre chose, et de prendre nous-mêmes peut-être à nous aimer en premier, et d'aimer notre prochain. Merci, mon Dieu, merci, Seigneur. Tu envoies ton esprit maintenant. Tu bénis, tu poses ta main sur les blessures. Tu poses ta main sur des passés très lourds, des passés, Seigneur, très lointains. Mais, Seigneur, tu fais ton œuvre. Et tous ensemble, nous voulons te rendre grâce et te remercier de ce que tu n'as pas choisi, en effet, les sages, de ce que tu n'as pas choisi, les nobles et les puissants, mais de ce que tu es venu prendre alors que nous étions petits et que nous restons petits à tes yeux, mais qu'ainsi, Père éternel, eh bien, c'est nous que tu avons choisi. Je vous ai appelé, je vous ai établi, je vous ai envoyé afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Bénis ton Église. Passe maintenant dans les rangs et dans les vies. Par ton Esprit Saint, ta parole opère la guérison. Elle opère la délivrance. Elle opère par le souffle, Seigneur, de ton Esprit Saint. Eh bien, Seigneur, une liberté, une libération, une délivrance. Merci, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.